Des aventuriers et aventurières de la Water Family, l'épisode 3, l'illusion de la zone de confort, avec Benjamin Dutreux, skipper et navigateur français, qui vous raconte ses envies d'exploration, ses challenges ainsi que ses aventures à l'eau.
Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans et je suis skipper. Ce qui a donné naissance à mes envies d'exploration en mer, je pense que c'est le fait d'avoir habité jeune sur une île. Moi, j'ai débarqué sur l'île Dieu à l'âge de mes 7-8 ans. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, on a eu la chance d'avoir une liberté énorme, quoi. Dès le plus jeune âge, les parents nous ont mis sur des vélos et on faisait ce qu'on voulait avec les potes. On allait se balader, on allait pêcher, on allait faire plein de trucs. Et donc, du coup, j'ai eu le droit à cette liberté dès très jeune. Et je pense que la mer, aujourd'hui, est un énorme espace de liberté. Et du coup, ça, voilà, je retrouve ça sur l'océan maintenant. Enfin, ma prise de conscience écologique, elle s'est motivée par plein de petites choses. Je pense déjà par commencer par des sensibilisations, par aussi naviguer à des endroits où la mer était plus une poubelle qu'autre chose. Et puis je pense que ça, j'ai eu une vraie prise de conscience quand je me suis rendu compte que en fait la pollution, elle pouvait être invisible et que du coup finalement tout ce qui était tout ce qu'on pouvait voir, c'était que finalement une face visible, mais que derrière, en fait, il y avait énormément de pollution invisible. Et ça, je l'avais appris avec la Water Family en 2015, quand j'avais eu l'occasion de voir des enfants se faire sensibiliser. Et je me suis dit, mais attends, moi, je suis adulte, je suis en train de faire une compète, et là, ils sont en train de sensibiliser des enfants. Et en fait, je suis même pas au courant de ce qu'ils sont en train de dire, quoi. Je suis même pas au courant de la pollution que va provoquer mon jean, que vont provoquer mes objets du quotidien. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu vraiment plein d'étapes autour de ma prise de conscience, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que je fais différemment, histoire d'être suite à cette prise de conscience, des choses que je ferais naturellement aujourd'hui, je pense que c'est déjà dans le quotidien en fait que ça se passe. Certes, il y a plein de petites évolutions qui sont faites dans la construction des bateaux, il y a plein d'évolutions qui sont faites dans l'évolution des matériaux, de la manière dont on va réfléchir un projet, etc. Mais je pense que ça se passe aussi au quotidien. Donc déjà, en fait, moi, ça se passe déjà avec mon équipe au quotidien. Je pense qu'on est tous dans l'équipe déjà impactés par l'environnement. Donc on a tous une prise de conscience chez nous tous les jours à la maison. Donc en fait chacun peut faire comme nous, quoi. Je pars du principe que chaque personne peut faire la même chose dans son quotidien à la maison. Et nous, je pense que ça déjà c'est une façon de vivre de tous les jours. Après forcément, il y a d'autres sujets qui vont être de rajouter certaines matières un peu moins polluantes dans les bateaux. Il va y avoir la manière dont on se déplace avec l'équipe, la manière dont on réfléchit à nos projets, les partenaires qu'on choisit pour nos bateaux. Moi, forcément, dans la démarche que j'ai avec la Water Family, il y a une obligation pour que les partenaires aient aussi. Mais c'est pas une obligation d'ailleurs, mais c'est une volonté plutôt, pour que les partenaires aillent dans la même direction, quoi. Donc, du coup, forcément, ça semble assez logique. Mais voilà, c'est plutôt des. Moi, je cherche plutôt à promouvoir les petites choses simples du quotidien plutôt que les choses compliquées qui peuvent prendre du temps. Moi, je suis pas ingénieur, j'ai probablement pas les solutions de demain pour mieux construire un bateau ou pour réduire drastiquement notre empreinte. Mais je pense qu'il y a plein de choses que je peux faire au quotidien. Comme tout le monde en fait. Et j'essaie juste de l'appliquer dans mon entourage, chez moi, de manière assez simple. Ah oui, c'est sûr qu'à bord d'un bateau, mais ça fait plutôt partie des éléments qui choquent quand on rentre à terre, mais c'est sûr qu'à bord d'un bateau, on fonctionne de manière assez sobre, de manière générale, parce que déjà, on n'a pas de l'énergie à volonté, on n'a pas de l'eau à volonté, on n'a rien à volonté, on n'a pas de la nourriture à volonté. Donc en fait, il faut que tout, faut qu'on gère nos propres ressources. Et donc, on prend vite conscience qu'en fait, ces ressources, elles diminuent et qu'il faut savoir en prendre soin. Parce que moi, quand j'ai besoin de faire de l'eau à bord du bateau, ça consomme de l'énergie. Quand ça consomme de l'énergie, j'ai besoin de recharger mes batteries. Mais je peux être soit limité avec mes systèmes d'énergie renouvelable, soit manquer de gasoil pour utiliser le générateur. Donc là, voilà, c'est vrai qu'à bord d'un bateau, on cherche à être le plus sobre possible. Et c'est vrai que quand on rentre à terre et qu'on se rend compte qu'en fait on a de l'eau qui coule au robinet, des facilités de confort qui sont assez, c'est incroyable, dont on s'imagine même plus d'ailleurs. Aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien de se dire, bah tiens, j'appuie sur le bouton, ça allume la lumière. Tiens, je tourne le robinet, j'ai de l'eau. Mais en fait, il faut qu'on se rende compte que c'est une chance et que c'est un confort énorme d'avoir tout ça. Et je pense que moi, autour de ma pratique, forcément, j'en ai conscience, quoi. Moi, comment je vois ma zone de confort? Déjà, je suis hyper heureux dans l'inconfort. Donc déjà, même si c'est pour aller en vacances, par exemple, ou me balader quelque part, et ben en gros, ça me dérange pas de pas aller à l'hôtel et de dormir dans le camion. Ça me dérange pas qu'on ait juste 10 litres d'eau pendant 4 jours parce qu'on va faire de la rando. En fait, moi, ma zone de confort, elle est plutôt attirée par le fait d'être en pleine nature. Je trouve que ça, c'est un confort qui est déjà hors norme, en fait. C'est une chance qui est juste ouf. Donc déjà, j'ai la chance d'être en pleine nature pendant ma pratique sportive, mais du coup, même au quotidien, pendant mes vacances ou autres, eh ben, j'aime bien être hors de ma zone de confort. Ma zone de confort que j'appelle être chez moi et pouvoir utiliser tous les ustensiles que j'ai au quotidien. C'est bien pratique, mais encore une fois, on a une chance de fou de pouvoir vivre ça. Mais je préfère. Ouais, pour moi, le confort, finalement, c'est une notion qui est complètement absurde. Parce qu'en fait, on peut très bien se satisfaire de trucs hyper simples. Et j'adore me satisfaire de trucs hyper simples, en fait. Je trouve que c'est hyper valorisant. Moi, de toute façon, de manière générale, je suis hyper optimiste. Mais oui, en ce qui concerne l'évolution du milieu de la navigation, même de la plaisance, je pense qu'en effet, les esprits changent. Mais c'est pas que dans notre milieu, c'est dans tous les milieux. Et j'espère bien. Mais ouais, je suis plutôt hyper optimiste parce qu'il y a une grosse volonté. Et je pense qu'avec la volonté, on fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a plein de chantiers qui se bougent, les propriétaires de bateaux bougent, changent les esprits. Même aujourd'hui, dans les équipes de course telles qu'une équipe IMOCA, qui sont quand même des grosses équipes plutôt apparentées à de la Formule 1, et ben finalement, on arrive à dégager des ingénieurs pour qu'ils essaient de travailler sur des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Donc ça veut dire que dans les démarches et dans la volonté, c'est dans les têtes de tout le monde. Donc je suis persuadé qu'avec. Enfin, à partir de volonté, en tout cas, ça me donne plutôt envie d'être optimiste. Nous, on a un petit chantier avec mon frère dans lequel on rénove des bateaux, on refit des bateaux et on a jamais autant de demandes que maintenant. Donc ça veut dire que les gens aujourd'hui commencent presque à préférer d'acheter un bateau d'occasion et de le rénover plutôt que d'acheter un bateau neuf, quoi. Et donc ça, c'est quand même plutôt bon esprit. Alors, je ne sais pas comment je pourrais expliquer la sensation exacte d'être tout seul au milieu de nulle part et de se sentir tout petit. Parce que je pense que c'est des sensations qu'il faut vivre. Et d'ailleurs, j'invite les gens lambda à aller la vivre. Parce que je pense que c'est pareil quand on est en montagne d'ailleurs ou quand on est en pleine nature. Il suffit juste de prendre le temps, de respirer, de voir ce qui se passe autour et de se dire qu'en fait. On n'est rien dans ce monde et qu'en fait, il y a plein de choses qui vivent autour de nous. Il y a des arbres qui bougent, il y a des oiseaux qui s'envolent, il se passe plein de trucs. Et dans la mer, c'est pareil. On est au milieu de l'océan, on est au milieu de rien. Il n'y a rien à quelques milliers de kilomètres quand on est dans le sud, par exemple. Et en fait, il y a quand même une vie. Il y a quand même des oiseaux, il y a quand même la mer qui bouge. La mer, elle est différente tous les jours. Je pense qu'à la montagne, c'est pareil. En forêt, c'est pareil. Les arbres, ils sont différents tous les jours. La montagne, c'est différent tous les jours. Et voilà, et en fait, c'est juste tu te sens petit par rapport à cette immensité. En fait, tu te dis que en fait, finalement, l'être humain, on n'a pas, on fait partie de ce monde, on vit avec, mais on n'a pas essayé de le révolutionner ou quoi, parce qu'en fait, il vit déjà de sa propre manière. Et donc, c'est vrai que du coup, tu te sens juste tout petit, quoi, dans ces instants-là. Tu relativises sur ce qui se passe un peu partout, quoi. L'anecdote la plus ouf que j'ai vécue en mer, déjà ce qui est trop cool et pourquoi je continue à faire ce métier passion, c'est que à chaque fois que je vais en mer, j'ai une nouvelle anecdote et j'ai de nouveaux trucs à vivre en fait. Et moi, c'est ce qui me passionne au quotidien, c'est d'avoir plein de trucs à vivre. Mais du coup, en avoir une au-dessus des autres, c'est pas si simple. Il y a tellement de petites anecdotes, de petits changements, de petits trucs qu'on vit à chaque fois qu'on est en mer, parce qu'en fait, on est dans un. En fait, une anecdote, c'est simple, c'est quelque chose qui sort du commun. Mais en gros, quand on est en mer, ça sort tout le temps du commun, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas l'élément dans lequel on vit. Donc en fait, on n'est pas sur une route, on n'est pas sur un canapé, on n'est pas sur. On est dans un bateau qui est sur l'océan, et sur l'océan, la mer, on ne maîtrise pas ce qu'elle est, le courant, on ne maîtrise pas ce qu'il est, la météo, on ne maîtrise pas ce qu'elle est. On essaie de la maîtriser, on essaie de maîtriser tout ça, on a des théories parfaites sur tout ça, mais à chaque fois, mes anecdotes, elles arrivent par le fait que. Ah ben en fait, je suis surpris, normalement, il devait y avoir 2 mètres de creux et 30 nœuds de vent, et en fait, il y a 3 mètres de creux et 45 nœuds de vent. Et du coup, je suis un peu. Je sais pas comment gérer cette transition, il y a plus de vent que prévu, il faut que je change ma voile, faut en fait c'est et tout ça en fait ça crée plein d'anecdotes parce que souvent quand on est dans la difficulté du truc, et ben on fait des trucs de travers et donc ça nous enchaîne sur des petites merdes d'abord hein, tout simplement des petits trucs imprévus et du coup ça c'est des anecdotes au quotidien quoi. Et du coup je pense que quand on est en mer, quand on est en nature, on a des anecdotes au quotidien et on peut pas vivre une routine. Et je pense que voilà, pas vivre une routine, ça amène des petites anecdotes du quotidien. Après, voilà, moi, les petites anecdotes que j'aimais bien raconter, c'était parce qu'il faut toujours en raconter, c'est de dire que, bah, tout simplement, des fois, d'être le, comment dire, prendre son café le matin en dehors du bateau, observer ce qui se passe dehors, enfin, avoir des baleines, ça, c'est une anecdote. Voir, en fait, tout, c'est plein d'anecdotes. Donc, je sais pas trop comment répondre à ta question. Il n'y en a pas une qui m'a marqué plus qu'une autre, quoi. Puis c'est pas une aventure aussi uniquement liée à ça, c'est une aventure aussi liée à l'humain, parce qu'on a aussi toute une équipe qui travaille derrière ces projets-là. Et tout ça, ça nourrit des anecdotes, des petits trucs qu'on a envie de partager avec les autres. Voilà, en soi, une anecdote, c'est ni plus ni moins qu'un truc qu'on a envie de partager avec les autres, quoi. Et du coup, ça, bah, je sais pas, c'est un tout, quoi. Bah, déjà le travail de Guyon Environnement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros c'est de revaloriser des déchets. Donc ils collectent des déchets, ils les revalorisent, ils les revendent. Donc déjà ils ont un business qui fonctionne. Et donc en fait, là les gens vont dire, mais attends, je comprends pas, ils ont un business qui fonctionne en récupérant des déchets. Et donc ça c'est génial. Ça veut dire qu'ils prouvent à tout le monde qu'en fait en récupérant des déchets du quotidien, et ben en fait ils arrivent à les revendre pour pouvoir les recycler. Et donc en fait c'est génial déjà cette démarche de base. Et donc forcément du coup eux ils sont engagés par le fait que ils observent tous les jours qu'en gros il y a énormément de tonnes de déchets qui arrivent chez eux et qui doivent être retraités, etc. Et en fait ils sont presque dans le niveau inverse maintenant, c'est de se dire ah, c'est cool, on les récupère, on les traite, on les collecte, on les trie, on les recycle. Mais déjà, ils arrivent pas à tout recycler aujourd'hui. Donc ça les énerve un peu. Ils se disent, mais comment on arrive à produire autant de déchets, quoi? Et donc forcément, ça a créé un lien avec l'asso, parce qu'elle vise à consommer du local. Consommer du local, c'est quoi? C'est avoir moins de déchets de manière générale au quotidien. Pourquoi? Bah parce que si tu consommes local, tu n'es pas obligé d'aller tout emballer 3 fois et les foutre dans un conteneur, dans d'autres cartons, etc. Et donc voilà. Et donc c'est une des entreprises qui se fait pas concurrence elle-même, mais qui dit genre bah arrêtez de consommer trop de déchets, c'est n'importe quoi, on n'arrive pas à tout revaloriser. Ça veut dire que presque ils s'enlèvent du boulot, quoi. Ils cherchent à s'enlever du boulot. Ça veut dire qu'ils ont quand même pleine conscience que ça déraille un peu, quoi. Et donc en fait. Rien que par les valeurs, je trouve qu'il y a un lien simple entre la Water Family et eux. Et puis un autre lien simple aussi, c'est que ben, la Water Family, elle a son boulot de sensibilisation. Et eux-mêmes en interne, je pense qu'ils n'étaient pas sensibilisés sur ben, l'eau invisible notamment. Et du coup, ça a permis aussi de sensibiliser ben, ces acteurs-là de l'environnement, tout comme eux vont pouvoir sensibiliser ben, les gens de la Water Family de comment est-ce qu'on collecte et quels déchets on peut recycler, non pas recycler, etc., quoi. Les gros projets? Ah bah, il y a plein de gros projets qui arrivent. Mais là, celui qui est sur le feu, là, bien chaud en ce moment, c'est qu'on va participer à la Route du Rhum très prochainement. Donc, les projets du team là, qui arrivent très vite, c'est bah, la préparation à la Route du Rhum. Donc là, l'objectif, ça va être encore d'utiliser cet événement pour bah, aller sensibiliser un maximum de kids avec la Water Family. Et nous, on a un projet aussi sportif, donc l'objectif, c'est d'aller défendre au mieux les couleurs du team sur cette course, qui va être une course en solitaire entre Saint-Malo et la Guadeloupe, avant de partir dès janvier sur un tour du monde en équipage. Voilà. Comment je me sens? Bah écoute, on en parlait tout à l'heure, mais là je sors de ma zone de confort du coup. Parce que presque ma zone de confort, c'était d'être tout seul en mer. Et là maintenant, c'est être à plusieurs en mer. Donc ça va être une aventure humaine qui va être incroyable. Non pas seulement sur l'eau, mais aussi à terre, parce que du coup, c'est aussi des grosses équipes. Et voilà, c'est une grosse préparation sportive, quoi. C'est une énorme location pendant six, une énorme colocation pendant 6 mois, avec plein d'êtres humains, donc forcément ça va être hyper valorisant, quoi.
Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Benjamin Dutreux et vous pourrez retrouver tous ses réseaux dans la description de l'épisode. C'était un podcast produit par la Water Family, association d'éducation à l'écologie depuis 2008. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et le soutenir sur votre plateforme d'écoute.